Radio Prague, les informations.
Le Parti social-démocrate a définitivement refusé son soutien au nouveau gouvernement de coalition. Le président du Congrès juif européen est en visite à Prague. Jeudi, le président Václav Klaus se rend pour 3 jours en Slovaquie. Le Parti social-démocrate ne soutiendra pas le nouveau gouvernement de coalition de Mirek Topolánek lors du vote de confiance. Le chef du parti, Jiří Paroubek, l'a annoncé à l'issue des négociations d'une heure qu'il a eues avec les représentants de l'ODS qui ont été retransmises en direct par la télévision tchèque. Le deuxième gouvernement du chef du parti civique démocrate Mirek Topolánek a été nommé mardi par le président Václav Klaus, plus de 7 mois après le scrutin législatif. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le ministère de la Défense est dirigé par une femme, Vlasta Parkanova de la KDU-ČSL. Madame Jamila Stehlíková, nouvelle femme ministre sans portefeuille, envisage la création d'une agence dont le but consisterait à empêcher l'apparition de ghettos regroupant des personnes défavorisées. Pour Madame la ministre, qui est chargée des problèmes des minorités et des droits de l'homme, la création d'une telle institution est prioritaire pour elle. Pierre Besnénou, président du Congrès juif européen, est en visite à Prague pour prendre connaissance de la communauté juive locale et des attitudes de la population et des représentants politiques à son égard. Ce jeudi, le président Václav Klaus, accompagné de son épouse, ouvre sa visite de 3 jours en Slovaquie. Il aura des conversations avec son homologue Ivan Gašparovič et avec le premier ministre Robert Fico. Le couple présidentiel se rendra aussi à Bobrovec, lieu de naissance d'Olivia Klausova. L'ex-premier ministre tchèque Miloš Zeman a reçu l'ambassadeur américain à Prague, Richard Graeber. Leur entretien a porté notamment sur l'évolution de la scène politique nationale et sur les investissements américains en Tchéquie. Miloš Zeman, qui est depuis 2002 en retraite, vit à la campagne dans la région de Vysočina. L'ablation d'une tumeur du rein par la voie laparoscopique a été réalisée par des chirurgiens urologues de Jablonec nad Nisou en Bohême du Nord. Météo encore ce jeudi, il fera très chaud pour la saison, mais un peu moins que la veille. Les températures diurnes se situeront légèrement au-dessus de 10 degrés. Le ciel sera à moitié couvert et un vent vigoureux touchera la Tchéquie. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Magdalena Hrozinková.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Le conflit pétrolier entre la Russie et la Biélorussie retient l'attention de tous les quotidiens nationaux. Leurs commentaires dans quelques instants. La République tchèque occupe la 3e place en Europe quant au nombre de divorces selon l'Office statistique des communautés européennes. Nous nous pencherons sur ce phénomène. Au sommaire également une restitution controversée de la célèbre villa Tugendhat à Brno ainsi qu'une première ablation par radiofréquence sur un rein pratiqué en République tchèque. C'est aussi une première en Europe centrale. La presse tchèque accorde une place importante à l'interruption dans la nuit de dimanche à lundi des livraisons de brut russe en Europe via l'oléoduc Droujba. Le conflit qui oppose Minsk à Moscou sur la question du transit du pétrole par le territoire biélorusse ne menace certes pas l'approvisionnement de la République tchèque à court terme, mais les journaux s'interrogent cependant sur la politique énergétique tchèque et critiquent la position du Kremlin. Guillaume Narquet.
Selon Lidové Novigny, la Russie s'est toujours servie de son pétrole comme d'un instrument politique. Le quotidien rappelle l'épisode similaire de l'année dernière avec l'Ukraine pour le gaz. À l'époque, Moscou avait déjà prouvé qu'il était capable d'interrompre les livraisons et personne aujourd'hui en Europe ne peut donc faire mine de s'étonner des pratiques russes. D'un autre côté, note le journal, on ne pouvait pas penser que la Russie allait vendre éternellement son énergie à la Biélorussie à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché mondial. Et puis, peut-on lire un peu plus loin, la fin de ces tarifs préférentiels du pétrole et une éventuelle guerre commerciale avec le voisin russe pourrait placer le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko dans une position très délicate, ce qui n'est tout de même pas rien. Ospraske Noviny, qui consacre une page et demie au conflit, voit lui aussi les choses sous un angle similaire. La Russie a perdu la confiance de l'Union européenne et Loukachenko joue sa survie, a ainsi choisi de titrer le quotidien économique. Un peu plus bas, le journal précise également que les réserves tchèques de pétrole permettent de couvrir les besoins du pays pour environ 4 mois et que les prix de l'essence et du gasoil à la pompe n'ont pas augmenté. Toutefois, dans une analyse plus approfondie, intitulée « Le moment du réveil pétrolier », le commentateur d'Ospolaske Noviny affirme que la fermeture des robinets russes doit permettre à l'économie tchèque, très exigeante sur le plan énergétique, de prendre conscience de la nécessité de diversifier ses sources et de faire des économies. Enfin, Mlada Frantadnes estime que si la Russie est dans son bon droit vis-à-vis de la Biélorussie, ce sont cependant les autres pays européens qui essuient les plâtres d'une politique qui ne donne pas à la Russie une réputation de fournisseur de confiance. Mais au-delà de l'assèchement provisoire de l'oléoduc Droujba, ce qui nous inquiète, selon le journal, est la vision d'un avenir sans un pétrole dont nous sommes grandement dépendants.
L'équipe d'urologues de l'hôpital de Jablonets nad Nisou, en Bohême du Nord, vient de réaliser une opération pratiquée jusqu'ici uniquement par des médecins américains et britanniques. Grâce à une technique élaborée en Grande-Bretagne qui utilise les ondes radio pour brûler les tumeurs, 3 patients ont déjà été opérés avec succès. Détail avec Alexis Rosenzweig.
3 tumeurs malignes rénales chez 3 patients différents ont été éliminées mardi grâce à cette nouvelle méthode, employée pour la toute première fois en Europe centrale. Petra Krajinova est la porte-parole du centre hospitalier de Jablonets.
Cette opération est exceptionnelle parce qu'il n'y a plus besoin d'ouvrir et seule la tumeur est éliminée. Il n'y a pas non plus besoin d'enlever l'organe touché, ce qui pouvait jusqu'ici entraîner beaucoup de complications.
Nagi Habib, le docteur londonien qui supervisait les interventions de mardi, indiqué avoir choisi l'hôpital de Jablonets pour la compétence et l'expérience de ses médecins en la matière. Il a ajouté que le département d'urologie de cet hôpital pourrait devenir un centre de formation pour tous les spécialistes du pays et pour ceux venant de Pologne, d'Autriche et également d'Ukraine. Dans le jargon médical, ce nouveau type d'intervention chirurgicale est appelé une ablation par radiofréquence. Ce sont effectivement les ondes radio qui sont utilisées pour éliminer la tumeur. Une méthode beaucoup moins onéreuse que la chirurgie classique, environ 80% moins chère, et plus facile à pratiquer, sans aucun saignement et avec une petite cicatrice seulement. Cette méthode est vieille de 20 ans, mais commence tout juste à être utilisée pour l'ablation de tumeurs sur les reins et les poumons. À l'avenir, elle pourrait également être employée sur les seins, la prostate, les os et les glandes surrénales. Bref, comme vous pouvez le constater, les ondes radio ne servent pas seulement à diffuser Radio Prague.
On le savait et les statistiques de l'Eurostat viennent de le confirmer. Les Tchèques se classent parmi les champions du divorce à l'échelle européenne. Plus précisément, ils occupent la 3e place avec quelque 67 divorces sur 100 mariages. Triste première place pour la Belgique avec 75 divorces, suivi de l'Estonie qui frôle le chiffre de 70 couples divorcés. Rappelons que la moyenne européenne se situe quant à elle à 40 divorces. En décembre 2006 déjà, le thème a été largement développé dans la presse suite à la publication d'une étude nationale effectuée par l'Office tchèque des statistiques. Cette dernière démontre, par exemple, que dans la majorité écrasante des cas, la rupture officielle est demandée par les femmes. Dans la vie du couple, la femme veut que les choses soient claires. Pour un homme, ce n'est pas tellement important, explique le psychologue Josef Zeman. Une comparaison s'impose avec la Slovaquie. Par ailleurs, les habitants des deux pays sont de plus en plus nombreux à privilégier le concubinage à l'union matrimoniale. Or, côté divorce, la Slovaquie peut se targuer d'un taux assez bas par rapport à la République tchèque, 41 mariages seulement sur 100 divorces s'y dissolvent. Une réalité que les spécialistes expliquent par l'influence de l'Église, forte en Slovaquie et peu palpable en Tchéquie. Josef Zeman, auteur du rapport national sur la famille, publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales, fait un parallèle entre la hausse du taux de divorce et l'évolution politique et sociale du pays depuis la chute du communisme. Les exigences conséquences sur le couple sont extrêmes, affirme-t-il. La charge de travail est incomparable à celle d'il y a 17 ans. Dans un tel climat, poursuit Josef Zeman, il suffit qu'un membre du couple soit plus nerveux, plus ordonné ou plus silencieux que son conjoint et c'est fini. Leur relation ne supporte plus aucune charge supplémentaire, constate le psychologue. Une expérience vécue chaque année par 30 000 couples tchèques. Ce mercredi, la mine Dukla, exploitée pendant un siècle dans la ville de Havířov, en Moravie du Nord, a été fermée. C'est un nouveau chapitre de la reconversion industrielle du bassin minier de Moravie du Nord. Václav Richter.
La nationalisation des grandes entreprises après la Deuxième Guerre mondiale a permis de créer en Moravie du Nord un groupe d'extraction charbonnière OKD Ostrava qui regroupait 32 mines et plusieurs autres entreprises industrielles. À partir de 1990, le groupe, transformé en une société par action, a été progressivement restructuré, privatisé et réduit. Entre 1990 et 2001, 14 puits ont été fermés et la reconversion du bassin minier de la région des villes d'Ostrava et de Kalvina se poursuit. Aujourd'hui, on ferme donc la mine Dukla, qui a cessé d'être rentable à cause de la minceur des filons de charbon. À l'époque de sa gloire, dans les années 1970 et 1980, la mine employait 4000 personnes et produisait quelque 2 millions de tonnes de charbon par an. En 2006, au moment où est tombée la décision de mettre fin à l'exploitation, il n'était que 1600, ce qui représente quand même un problème pour le système social de la région. Milada Halíková, maire de la ville de Havířov, évoque les mesures prises pour aider les employés menacés de chômage.
Dans le cadre du programme social, on proposera des emplois à la majorité des travailleurs. Une partie des mineurs a déjà été transférée dans des mines de la région. Malgré tout cela, certains ne trouveront pas une occupation correspondante. Il s'agit notamment de personnes qui touchent des rentes et des retraites partielles et qui ont travaillé surtout à l'extérieur de la mine. Il s'agit de 300 à 400 employés environ.
La direction de OKD a déjà prévu de payer des compensations aux licenciés. Les compensations peuvent atteindre jusqu'à l'équivalent de 12 salaires mensuels. On se demande quelle sera la future exploitation de l'aire de la mine désaffectée. Viera Brejová, porte-parole de OKD, explique.
C'est le début de la période de la fermeture technique de la mine, période pendant laquelle des dizaines, peut-être des centaines de nos ouvriers y travailleront encore. Ce n'est qu'après la fin de ces travaux qu'on pourra entamer la discussion sur une nouvelle exploitation de ces terres.
Takže teprve až tam skončí práce, tak je možné se bavit o dalším využití areálu.
C'est donc le moment de procéder à la liquidation des séquelles environnementales de l'extraction charbonnière et à l'ensevelissement des galeries souterraines pour éviter l'effondrement du sol. À l'avenir, la ville de Havířov aimerait y créer une zone industrielle.
La célèbre villa Tugendhat, inscrite pour son style fonctionnaliste préservé en état original sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, fait l'objet de disputes. Les descendants de ses anciens propriétaires réclament sa restitution. Yarka Gisublova pour plus de détails.
Le 28 décembre dernier, la municipalité de Brno, qui est le propriétaire de la villa, a reçu une demande de restitution présentée par Ernst Ruth et Daniela Tugendhat, enfants des premiers propriétaires de la villa. Leur demande se réfère à la loi sur l'atténuation des torts matériels causés aux victimes de l'Holocauste. Une analyse juridique que la municipalité de Brno s'est fait faire qualifie la demande non fondée, dit l'adjoint du maire de Brno, Barbara Javorová.
Skutečně v tuto chvíli nemám nejmenší doklad o tom, že bychom byli právně v takové situaci.
Réellement, en ce moment, nous n'avons aucune pièce, aucun document prouvant que la municipalité aurait juridiquement l'obligation de restituer la villa.
Byli právně v takové situaci, že bychom mohli vydat tuto vilu.
Le directeur du musée de Brno qui gère la villa, Pavel Cyprian, estime que les descendants de la famille Tugendhat ont basé leur demande sur le paragraphe numéro 3 de la loi où il est question de restitution des œuvres d'art.
Villa Tugendhat se sice dá chápat jako umělecké dílo par excellence.
La villa peut certes être considérée comme une œuvre d'art par excellence, néanmoins il s'agit de biens immobiliers que la loi ne mentionne pas.
Point étonnant que la ville de Brno ait décidé de rejeter la demande. La villa est l'un des bijoux architectoniques qui se trouvent sur son territoire. Depuis 2001, elle figure sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Elle est unique par le choix de matériaux, l'aménagement et la conception intérieure qui a supprimé la division en chambres, préférant seul espace derrière de grandes fenêtres donnant sur le jardin. L'architecte allemand Ludwig Miss van der Rohe l'a conçue pour Fritz et Greta Tugendhat, riches commerçants qui possédaient plusieurs usines textiles à Brno. En 1939, la famille a fui le nazisme et s'est installée au Venezuela. Occupée et pillée par la Gestapo, la villa a été, après 1945, nationalisée. Jamais dans le passé, ses propriétaires n'ont demandé sa restitution. Leurs enfants, par contre, sont prêts à porter plainte devant le tribunal tchèque et même au tribunal de Strasbourg.
Le 1er juillet 2006 a été une petite révolution sur les autoroutes et les routes tchèques. Le nouveau code de la route et avec lui le permis de conduire à points sont entrés en vigueur. 6 mois après, les autorités policières ont établi le bilan de l'année passée. Détail avec Alain Slivanski.
Un bilan, ce sont des chiffres. Voyons donc ce que nous révèlent les statistiques publiées par les services administratifs régionaux de la police tchèque. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de la route jusqu'à la fin de l'année 2006, 157 automobilistes ont atteint la limite fatidique de 12 points et ont perdu leur permis de conduire pour une durée d'un an. Ils devront repasser les tests des auto-écoles pour le recouvrir. 48 conducteurs ne sont pas loin de cette limite avec un total de 11 points. Quels sont les automobilistes qui ont récolté le plus de points? Les Pragois, avec 30 000 points, devant les habitants de H, la pointe occidentale de la République. Les conducteurs de la région de Liberec en Bohême du Nord sont les plus respectueux du code avec une pénalisation de 7000 points au total. Par contre, 30 000 automobilistes se sont vus retirer leur permis sur place directement par les services de police, nationaux ou municipaux. L'infraction la plus courante a été dans ces cas-là la conduite en état d'ivresse. Une grosse différence à noter, seulement 9 retraits de permis de ce genre à Prague alors que la Moravie du Nord en totalisait près de 1000. Les chauffeurs moraves feraient-ils les frais de leur production d'alcool de prune, la fameuse Slivovice? Un certain nombre d'automobilistes a continué à conduire en dépit d'un retrait de permis, plus de 9000 conducteurs, d'après les autorités policières. Bilan total pour les 6 derniers mois de 2006. 225 000 automobilistes ont perdu des points et environ 160 000, 1 ou 2 points. Et le nombre d'accidents de la route l'année dernière? Les statistiques indiquent une certaine baisse dans toutes les régions de la République tchèque, à une exception près, Prague. Dans la capitale, il y a eu 1260 accidents de plus qu'en 2005. Satisfaction pourtant de la police, moins de victimes de la route, 55 seulement, donc 6 de moins que l'année précédente. À noter aussi une baisse du nombre des blessés, aussi bien graves que légers. L'objectif de la police pour cette année, réduire encore le nombre d'accidents de la route. À Prague, par exemple, elle dispose de 9 radars stables. Un 10e sera ajouté. Le nombre de radars mobiles augmentera aussi et 500 nouveaux policiers devraient contribuer au contrôle de la circulation dans la capitale. L'entrée en vigueur du nouveau code de la route s'avère, en général, un succès sur les routes tchèques. Constatation des forces de police, mais aussi des spécialistes.
C'était Fais événement en République tchèque par Magdalena Hrozinková. Ne quittez pas l'écoute, notre programme se poursuit.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Parmi les architectes qui ont marqué l'image de Prague au cours du siècle écoulé, le plus reconnu est le Slovène Josip Plečnik. L'un des symboles de l'État tchèque, le château de Prague, porte son empreinte. Il y a effectivement quelque chose de symbolique dans le fait que l'œuvre de Plečnik relie 3 capitales d'État successeurs de la monarchie austro-hongroise disparue en 1918, Vienne, Prague et Ljubljana. C'est dans cette dernière qu'il est né le 23 janvier 1872 et où il est mort il y a de cela tout juste 50 ans, le 7 janvier 1957. À Vienne, il a fait ses études et ses premières réalisations. À Prague, il est devenu l'architecte du château. Thank you. De son père, Josip Plečnik devait reprendre une menuiserie en meubles. À Graz, où il étudie le métier, il fait la connaissance des architectes et devient dessinateur dans l'atelier de Leopold Teyer. En 1892, il part pour Vienne. Il est admis à l'école d'architecture d'Otto Wagner, relevant de l'Académie des arts plastiques. Il couronne ses études par une étude urbanistique d'aménagement de la station balnéaire de Schwellingen, près de la Haye, qui lui valut une bourse en voyage d'études de 2 ans au sud de l'Europe. Ses premiers travaux architecturaux furent faits pour Vienne. Des villas, des immeubles de location, des monuments et l'église de Saint-Esprit furent construits selon ses plans dans la métropole autrichienne. Or, il s'est le plus illustré par le projet et la réalisation du palais Zacherl au centre de Vienne. En 1910, l'architecte tchèque Jan Kotěra, l'un des représentants les plus marquants du style moderne d'entre-deux-guerres, l'a invité à Prague pour prendre sa place de professeur d'architecture à l'École supérieure des arts décoratifs. Plečnik accepte et c'est ainsi que commence son parcours lié à jamais avec le château de Prague. Symbole de l'histoire plus que millénaire de l'État tchèque, le château fournit un exemple d'architecture de tous les styles miraculeusement préservés. Depuis la construction de la première église pré-romane sur cet éperon avant 894, le château a été sans cesse élargi et agrandi en symbiose de styles, ce qui fait de lui un ensemble des plus harmonieux. L'activité de construction s'arrête après l'édification de l'aile thérésienne au XVIIIe siècle. Depuis, le château souffre d'une dégradation, il ne reçoit une image nouvelle qu'avec la fondation de la Tchécoslovaquie le 28 octobre 1918. Son premier président, Tomáš Garrigue Masaryk, décide de transformer la demeure monarchique en siège digne de la nouvelle démocratie. Sur sa proposition, Plečnik est nommé l'architecte du château. Masaryk lui confie non seulement les remaniements de celui-ci, mais aussi ceux de sa 2e résidence de l'année. Partisan de l'architecture classique, Plečnik conçoit une symbolique nouvelle, caractéristique de l'État moderne, mais qui évoque les traditions antiques de la démocratie. Ces remaniements respectent le lieu, la région, la tradition, le souvenir. Le style de Plečnik est très personnel. Il se présente comme un montage d'éléments classiques et modernistes avec des emprunts à la culture populaire et à l'architecture méditerranéenne. Entre les années 1920 et 1934, Plečnik refait la première et la troisième cour du château, les jardins du Midi, Jižní zahrady, et le jardin sur le bastion, Zahrada na Baške. Avec son disciple Otto Rothmeier, il remanie les locaux intérieurs, dont la salle d'entrée dite des colonnes, près de la porte Matia, et aménage nouvellement les appartements avec le cabinet de travail pour le président et sa famille. À la première cour, Plečnik aménage le pavement, l'éclairage, les 2 mâts en pin de 25 mètres de hauteur et 2 nouvelles percées à travers l'aile transversale. Il marque l'air de la cour par 2 chemins en dalles sombres, dont l'un conduit à la porte des nouveaux appartements présidentiels. En 1921, Plečnik est chargé de l'aménagement de toute l'aile destinée à recevoir les nouveaux appartements présidentiels. À partir de la porte donnant sur la première cour, il crée un escalier en colimaçon, un ascenseur et installe dans les vieux bâtiments les pièces d'habitation, le salon des dames, la bibliothèque de Masaryk et à l'intersection des ailes sud et est, le grand implovium, espace central de l'appartement, avec un bassin circulaire éclairé par une fenêtre elliptique du toit. Il construit aussi une entrée personnelle du président, reliant la cour du château par un tunnel creusé à travers l'aile centrale. Dans la troisième cour du château, de nombreux vestiges datant du Xe siècle furent conservés sous la charpente en béton réalisée par Plechnik de 1925 à 1928. Plechnik relia aussi cette cour au jardin du versant sud, les jardins du Midi, en y établissant un escalier à deux balcons présentant 13 mètres de dénivellation entre la cour et les jardins. Cet escalier donne une vue superbe de la ville. Dans la troisième cour, un monolithe en granit conçu par Plechnik fut élevé en mémoire de victimes de la Première Guerre mondiale. Plechnik reste à Prague jusqu'en 1936. Il y réalise encore une autre construction incontournable, le bâtiment en briques rouges de l'église du Sacré-Cœur, érigé entre 1928 et 1932 sur la place Jiří Poděbrad, Georges de Poděbrady. Pendant longtemps, l'œuvre de Plechnik est restée à l'ombre de ses collègues plus célèbres, dont Le Corbusier, Mies van der Rohe et Alvar Aalto. En tournant dans la perception de son œuvre s'est produit avec l'exposition organisée en 1986 au Centre Georges Pompidou à Paris, qu'il a fait découvrir pour un large public. Pour les Tchèques, Plechnik a été redécouvert dans les années 1990 grâce à une exposition rétrospective de son œuvre et au remaniement du château initié par Václav Havel.
Fin du programme de Radio Prague en français. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz.